De très nombreux publics par cette température estivale. Nous allons parler d'un sujet brûlant. Jeanne d'Arc, il fallait que je la fasse celle-ci. Hein. Sinon, si je ne l'avais pas faite. Donc, à mes côtés se trouve Rachel Tanner.
Bonjour.
Bonjour Rachel. Paul Béorn et Bernard Simonet.
Bonjour.
Nous sommes là pour... donc on va peut-être pas faire... enfin, quoique avec Bernard Simonet, peut-être, on va toucher des thématiques très historiques. Mais à ma gauche, j'ai deux auteurs qui n'ont pas... Enfin, qui se sont inspirés, évidemment, de Jeanne d'Arc à des degrés divers, d'ailleurs, mais qui n'ont pas du tout la même conception de l'inspiration Jeanne d'Arcienne dans leurs écrits. Jeanne d'Arc, bien sûr, c'est la figure centrale de l'imaginaire national. Je ne vous apprends rien là-dessus. Longtemps, les romans ont fini par une scène de bûcher. Là, on n'a pas tout à fait la scène de bûcher. Quand elle y est, Bernard Simonet ouvre son livre avec. Donc c'est quelque chose qui déjà interpelle le lecteur. On ne compte plus les livres qui ont été écrits sur Jeanne d'Arc, je ne sais pas, il y en a plusieurs milliers sans doute. Voilà. On ne compte plus les œuvres d'art, peinture, statuaire, etc. Je ne parle pas du cinéma. Il y a une quinzaine de jours, peut-être à peine, une avant-première d'un film entre le documentaire et le film, j'allais dire poétique, a été visionné pour la première fois à Domrémy, œuvre d'une Québécoise. Donc vous voyez que les choses se passent. Et rien que ces derniers mois, je n'ai pas fait le compte tout à fait précis, mais un certain nombre de livres se sont inspirés de la thématique Jeanne d'Arc. Je citerai Jeanne Puchol sur un scénario de Valérie Mangin et des couleurs d'Elvire de Coq qui est ici aujourd'hui, avec une BD en deux volumes, dont il me semble que le premier seulement soit sorti, intitulée sobrement Jeanne d'Arc. Ce n'est pas la première BD sur le thème. On se souvient par exemple de celle de Paul Gillon pour qui la jeune héroïne était de la braise. Je l'ai faite aussi, celle-là. J'ai vu passer aussi un fascicule de Robert Darvel, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'amuse à camper une délirante Jeanne d'Arc au pôle Nord. Donc je me suis demandé un petit peu s'il reprenait le flambeau de Voltaire pour tourner la belle en dérision, mais bon, voilà. J'ai vu aussi passer un livre d'un auteur que je ne connais pas, qui s'appelle Jacques Cassabois, qui lui semble retrouver les fondamentaux, c'est-à-dire la foi, le courage, l'audace, la religion, enfin tout ça, dans une Jeanne publiée par le livre de poche Jeunesse. Et puis évidemment nos trois invités, qui à des degrés divers se sont inspirés aussi de la belle. Rachel.
Oui, j'ai écrit donc dans l'anthologie donc Rois et Capitaines une nouvelle donc qui s'intitule La demoiselle et le roitelet. Le roitelet étant évidemment Charles VII, bien sûr. Roitelet pouvant être pris au double sens du terme, c'est-à-dire petit roi et en même temps donc l'oiseau, donc l'animal un peu sans force et faible et insignifiant. L'héroïne est évidemment inspiré de Jeanne d'Arc, mais n'est pas Jeanne d'Arc. Nous nous trouvons clairement là dans le domaine de la fantasy, à savoir une histoire imaginaire, que peut-être même on pourrait qualifier là aussi d'uchronie. Bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire, à savoir que l'histoire se passe différemment. Dans cette histoire, Jeanne d'Arc n'est pas Jeanne d'Arc. La vraie Jeanne d'Arc donc a été déjà brûlée avant même qu'elle ait pu commencer ses exploits, ou elle a été tuée avant qu'elle ait pu commencer ses exploits. Et donc je pars de l'idée que une autre la remplace. Mais il faut bien dire qu'à l'époque, donc il y avait tout un tas de prophétesses et de personnages un peu inspirés comme ça qui étaient déjà allés voir Charles VII. Hein. La vraie Jeanne d'Arc n'a pas été la seule à faire cette démarche. Il faut le savoir. C'était un courant à l'époque où, des femmes, un certain nombre de femmes du peuple, qui généralement ne s'intitulait pas guerrière comme Jeanne d'Arc, mais qui était plutôt dans le genre prophétesse, donc a demandé audience au roi, obtenait des audiences au roi, voyait le roi, et donc jusqu'au jour où une, donc celle de Jeanne d'Arc, celle dont on connaît la réussite, a réussi où les autres ont échoué. Et elle a réussi en quoi? Ben déjà, elle a réussi à rassurer le roi, visiblement, qui, comme bon, je l'explique dans la nouvelle, donc, mais je pense que vous le savez tous et toutes, avait des doutes profonds quant à sa légitimité, puisque sa mère l'avait elle-même déclaré bâtard, qu'Isabeau de Bavière était connue donc comme une femme à la cuisse légère et qui avait de nombreux amants, et que donc sa propre mère l'avait déclaré pas fils du roi Charles VI. Donc cette question, semble-t-il, torturait beaucoup celui qui n'était encore que le dauphin, et apparemment toutes ces femmes, donc tous ces gens étaient chargés, voulaient le rassurer. Et bon, j'en donne une interprétation évidemment particulière. Puis dois-je poursuivre? Je vais peut-être laisser la parole.
Non, passer la parole peut-être aussi à Paul Béarn, qui lui aussi est un écrivain, donc les choses soient dites une fois, peut-être le répéterez-vous, un écrivain de fantaisie, n'a pas cherché à faire une œuvre historique. En revanche, c'est quand même un peu inspiré de Jeanne. Comment on arrive à se pêcher quelque part, pour certains, de trafiquer autant l'histoire de La Pucelle avec un titre?
Quand vous êtes auteur, vous avez droit à tous les péchés. Et donc, quand vous écrivez de la fantaisie, vous vous inspirez nécessairement, surtout quand vous choisissez de faire de la fantaisie médiévale, du Moyen-Âge, ne serait-ce que pour l'univers. Et donc, vous êtes très tenté de regarder vers ce qui s'est passé réellement au Moyen-Âge et d'utiliser des personnages historiques. Pour autant, je n'avais pas du tout envie de faire un roman historique qui m'aurait enfermé dans le carcan de l'histoire. Et je n'avais pas non plus envie de faire une uchronie qui m'aurait proposé beaucoup de contraintes. En plus, moi je suis un auteur de fantasy, je voulais qu'il y ait des créatures fantastiques, de la magie, et toutes choses qui n'existaient pas au XVe siècle, ou alors pas officiellement. Et pourtant, Jeanne d'Arc, c'est un personnage de fantasy presque par nature, parce qu'elle entend des voix, elle accomplit des miracles, même si en fait on ne sait pas très bien ce qui s'est passé.
Enfin, des choses assez extraordinaires, quand
même.
Des
choses extraordinaires,
oui. De toute façon, quand même. Je veux dire, historiquement parlant, je t'interromps, excuse-moi, mais historiquement parlant, son histoire est quand même assez hallucinante, il faut bien le dire.
Il y a un certain nombre de mythes qui entourent Jeanne d'Arc, dont on ne sait pas du tout en fait la véracité, mais en tout cas, son périple est ponctué d'anecdotes qui font vraiment penser à un roman de fantasy.
Non, mais son périple en soi est hallucinant. Cette jeune paysanne culte, qui savait ni lire ni écrire, et qui tout à coup, même si
on va revenir sur la thématique de la jeune paysanne.
Même si son père était un laboureur aisé, c'était quand même. Elle savait ni lire ni écrire, par exemple.
C'était une roturière, c'était une femme. A priori,
elle savait probablement lire et écrire.
C'est pas ce qu'on m'a appris dans les cours de faculté. Mais
oui, je sais bien, je sais, mais elle savait probablement lire et écrire. Elle était formée pour ça. Mais l'histoire a déformé beaucoup de choses derrière.
En tout cas, moi je ne suis pas historien, je me suis basé sur le mythe de Jeanne d'Arc, celui que tout le monde connaît. Et donc effectivement, je l'ai représentée comme une femme roturière et très jeune, et qui avait un destin extraordinaire. Destin dans lequel beaucoup de gens pouvaient se reconnaître, puisque ce n'était pas une puissante, ce n'était pas quelqu'un, c'était pas une héritière, c'était pas une noble, en tout cas officiellement, c'est pas ce que les gens ressentaient. Et en plus, avec son statut de martyr, bien après sa mort, elle est restée un personnage très célèbre, un personnage emblématique, politique, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la femme elle-même. Donc, comment est-ce qu'une femme, dans un monde d'hommes, dans un monde médiéval, dans un monde qui vit en classe, puisqu'on n'a pas idée aujourd'hui de ce que c'est que la noblesse et la roture, mais c'était quand même deux mondes très très séparés, a pu accomplir ce qu'elle a fait. Mais j'en ai fait un monde complètement de fantaisie qui n'a rien à voir avec la France du XVe siècle, et je me suis contenté de faire différents clins d'œil à l'histoire de Jeanne d'Arc.
C'était un petit peu pour vous deux, peut-être me trompais-je, mais c'est plutôt une image de la femme que vous avez essayé de chercher, vous, pour comment dire, magnifier un peu cette héroïne. Vous êtes servi un petit peu de l'imaginaire collectif et du fantasme collectif de Jeanne, quelque part. Et Rachel, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on s'est servi de ce, de cette image de la femme, en fait, symbole de la femme, j'ai l'impression. Plutôt que le roman, par exemple, on va revenir sur le roman
de Bernard Sinet. Pour être honnête, je me suis plutôt éclatée à décrire une femme guerrière, en réalité. Je me suis amusée dans cette nouvelle, j'ai voulu décrire une femme qui était impossible à cette époque, en réalité, hein, soyons très clairs quand même, hein, qui était impossible, mais la femme guerrière qui se bat à égalité avec les hommes, même plus que ça, qui entraîne les hommes à sa suite. Parce que, bon, Jeanne d'Arc, le personnage historique, c'est très différent de mon personnage à moi. Donc, en fait, au départ, j'ai quand même voulu m'amuser, même en gardant ce côté historique dont on va reparler, certainement.
Donc, la femme guerrière chez Rachel et la femme...
La femme, effectivement. Parce que si vous cherchez au Moyen-Âge une femme célèbre, déjà, bon, célèbre, connue de tous, vous en trouverez quelques-unes, mais quand même beaucoup moins que d'hommes. Et une femme célèbre qui n'était pas noble, je pense que vous aurez vraiment beaucoup de mal à en trouver. Donc Jeanne d'Arc s'impose quasiment comme un choix obligatoire si vous cherchez une femme...
Si elle était vraiment de la roture.
Oui, évidemment. Il y a une hypothèse bâtardisante, ouais, qui indique que ce serait en fait une fille illégitime de Charles VI.
Non, de son frère, de Louis d'Orléans.
De Louis d'Orléans.
On va donner la parole à Bernard qui ne rêve que d'en découdre. Parce que,
qui rongeait son frère en nous écoutant.
Non, mais j'étais d'accord avec ce que vous disiez. Puis de toute façon, comme je crois que c'est toi qui le disais tout à l'heure, un romancier a tous les droits. À partir du moment où il écrit un roman, il peut faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, je me suis positionné en tant que romancier, non pas en tant qu'historien, ce que je ne suis pas d'ailleurs. Je suis vraiment romancier. Et donc ce roman, je l'ai écrit... tout à fait par accident, parce qu'à l'origine, je voulais jouer sur le personnage de Jeanne des Armoises, qui est considérée par les historiens comme une fausse Jeanne d'Arc, quoique certains reconnaissent qu'il y a quand même des choses troublantes dans son histoire. J'avais pas intention d'écrire un roman sur elle, mais plutôt sur une de ses descendantes. Donc l'histoire se serait située à l'époque de Louis XI, Charles VIII. Mais avant d'écrire ce roman, j'ai voulu faire des recherches sur le personnage de Jeanne des Armoises et bien entendu sur Jeanne d'Arc. Et donc, comme je fais d'habitude, j'ai fait des recherches solides qui ont été de plus en plus poussées parce que plus j'avançais, plus je remarquais que l'histoire qu'on nous sert officiellement est bourrée d'incohérences et carrément même en lisant les ouvrages de certains historiens que je ne nommerai pas officiels, le partisan de la thèse classique, je me suis aperçu que certains déformaient la vérité, éliminaient des éléments sciemment parce qu'ils les gênent. Et que la plus grande honnêteté m'a semblé être du côté de ceux qui remettaient l'histoire en question. Alors, n'étant pas historien, mais étant quand même romancier, j'ai décidé d'essayer de retrouver une vérité possible dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors, effectivement, j'ai découvert des choses absolument surprenantes, comme quoi elle n'est vraisemblablement pas née en 1412, mais sans doute 5 ans plus tôt, qu'elle n'était pas une petite bergère de Lorraine, parce que même si elle a vécu là-bas, elle n'était sans doute pas une fille de paysan. Il est quand même étonnant qu'elle se soit mise d'un seul coup à parler français. On lui a enseigné, on lui a appris à monter à cheval, on lui a appris à se battre à l'épée, on lui a appris le français, on lui a aussi vraisemblablement appris à écrire. Elle a été fabriquée pour devenir l'héroïne d'une prophétie qui avait été émise à la fin du siècle précédent par une femme qui s'appelle Marie Robine, qui est considérée par certains historiens comme une folle, par d'autres comme un génie. Quoi qu'il en soit, c'est elle qui a dit « Le royaume perdu par une femme sera sauvé par une pucelle, par une jeune fille ». Et donc, je pense que... c'est pas moi qui ai eu cette idée, en fait. Hein, elle a été émise... en 1460 à peu près par le pape Pie II. J'ai la phrase, d'ailleurs je pourrais vous la lire si vous voulez, mais il pense qu'il se pose la question, est-ce qu'il s'agissait d'une œuvre divine ou d'une œuvre humaine, et il pense qu'il y a quelqu'un dans l'entourage du roi Charles VII qui a eu l'idée de fabriquer une guerrière en fait destinée à renverser le sort des armes. Donc ça veut dire que j'ai épuisé mes sources dans les écrits du Moyen-Âge, dans les chroniques de Perceval de Cagny, de Monstrelet, qui était le chroniqueur de Philippe le Bon, le duc de Bourgogne. J'ai lu également les historiens du XIXe siècle. Je suis allé moult fois sur le site de Sainte-Jeanne d'Arc, qui, bien que je ne partage pas ses idées, est remarquablement fait. J'ai essayé de synthétiser tout ça et de trouver, je dirais, une histoire logique à Jeanne d'Arc, sachant que l'histoire de la petite bergère de 16 ans qui d'un seul coup se met à monter à cheval, à se battre à l'épée spontanément, bon, évidemment, si on croit aux voix et à tout ça, on peut y croire. Mais en ce qui concerne les voix, par exemple, il faut savoir que Sainte Catherine et Sainte Marguerite, les deux saintes qui lui apparaissent soi-disant à Don Rémy, elles ont été rayées du martyrologe par Jean XXIII en 1900, au début des années 60, parce que leur histoire était trop invraisemblable. Même les partisans de la thèse officielle se posent la question.
Il y a des schizophrènes qui entendent des voix quand même. Le fait d'entendre des voix ne prouve pas
qu'il y ait... Ça peut être une hypothèse, oui.
Ça ne prouve pas qu'il y ait une intervention divine quand même, Bernard.
Oui, mais il y a eu tout. On a tout dit sur elle. Elle a été, cette pauvre Jeanne, elle a été vraiment traitée de toutes les manières possibles. Comme une sainte, comme une schizophrène, comme une malade. On a même prétendu que c'était un homme. Enfin, j'ai lu énormément de choses sur elle. Non, je pense que c'était une femme. Il n'y a pas de problème. Et donc, on a fait d'elle une femme guerrière. Elle avait une mission à remplir. Elle a parfaitement rempli sa mission. Bon, c'est une femme guerrière qui était capable de commander des hommes, mais en réalité, je pense que on l'a plutôt utilisée comme un étendard humain. Il fallait qu'elle soit présente. On essayait de la protéger parce que c'était plutôt une castagneuse. Donc, elle était prête à aller à monter au front. Elle a d'ailleurs été blessée par deux fois, dont une fois grièvement. Devant Paris, mais on essayait quand même de la préserver pour garder l'image de la pucelle envoyée par Dieu. Puisqu'il s'est passé après, une fois qu'elle a eu fait couronner le roi à Reims, c'était évidemment à Reims qu'il devait recevoir le couronnement officiel. Il y est allé un petit peu d'ailleurs en traînant les pieds parce qu'il était mal conseillé. Ensuite, elle voulait continuer la lutte contre les Anglais. C'est là qu'ils ont commencé à se fâcher. Elle a réussi à l'amener devant Paris, mais il n'a pas voulu livrer bataille, il est retourné sur la Loire, et à partir de là, l'histoire officielle passe beaucoup sur ce qui s'est passé après. Or, son histoire a continué, elle s'est terminée par la capture à Compiègne, et évidemment après, par la vente aux Anglais, le procès, et ce fameux bûcher où elle aurait prétendument péri. Je continue.
On va peut-être casser un peu le rythme là, parce que... en fait, c'est l'une des premières Moudjahidines, quelque part, Jeanne d'Arc, dirais-je en provocation.
Voilà. C'est une femme du peuple quand même, même si elle avait des origines nobles, à mon avis. Elle a été élevée parmi le peuple.
On est assez loin des préoccupations des uns des autres, là. Donc
c'est vrai qu'on part tous sur des pistes très différentes. Ouais. Quelle a été utilisée, ça ne fait bien sûr aucun doute. Hein. C'est clair que la cour, l'entourage de Charles VII a vu une formidable opportunité. Mais c'est un petit peu finalement la thèse que je mets dans ma nouvelle. Là. C'est que ce n'aurait pas été elle, ça aurait été une autre. À savoir que... Et des personnages comme ça, il y en avait à l'époque. Elle a connu un destin exceptionnel, mais ça aurait pu être très bien une autre, je veux dire. Ou ça aurait pu être personne, entendons-nous bien aussi.
Il fallait quand même l'entraîner, quand même.
Comment ?
Il fallait quand même qu'elle ait un entraînement, parce qu'effectivement,
Alors, à la différence de vous, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer maintenant, et je ne vois aucune intervention divine, je le précise, totalement athée, pour rien vous cacher. Donc moi, personnellement, je ne vois aucune intervention divine, mais en revanche, ce que je vois, c'est que dans l'histoire, il y a quand même des choses étonnantes qui se passent. Et des choses qui, quelquefois, dépassent l'imagination humaine. C'est-à-dire qu'il y a des histoires qui se passent. On se dit, si on fait un roman et qu'on raconte ça, les gens ne vont jamais nous croire que quelque chose comme ça s'est passé. Si tu racontes ça à un cheval de bois, il te donne un coup de sabot, quoi. Et l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est un peu ça. C'est tellement extraordinaire qu'effectivement, on est tenté de donner des explications comme des SK. C'est tellement extravagant, excusez-moi de faire le parallèle, c'est tellement extravagant qu'on a toujours la tentation d'imaginer des complots, des machins. Ça paraît pas possible. Et bien, Jeanne d'Arc, c'est pareil, ça paraît pas possible. Et je pense que dans l'histoire, il y a un certain nombre d'événements comme ça qui ne paraissent pas possibles. On se dit, non, là quand même. Bon, Jeanne d'Arc, donc, la tentation, c'est d'imaginer qu'elle est fabriquée, que ce personnage n'a pas existé, qu'il a été fabriqué, etc. Or, quand même, je précise malgré tout. Alors, moi, j'ai certainement moins de documentation que toi, Bernard, sur Jeanne d'Arc, mais je sais une chose, c'est qu'on a en tout cas un document extrêmement fiable qui sont les minutes de l'Inquisition. Et les minutes de l'Inquisition, ce sont des documents, tout ce qu'il y a de plus officiel, qui n'ont pas été trafiqués. Là, il n'y a pas de doute sur la question. Or, dans les minutes de l'Inquisition, les propos de Jeanne d'Arc sont d'une remarquable cohérence. C'est une jeune femme simple, mais claire. C'est-à-dire qu'on lui repose toujours les mêmes questions, c'était les méthodes inquisitoriales de l'époque. Jamais elle ne se contredit, jamais elle ne dit deux fois des choses qui, soient incohérentes. Elle était très claire et très cohérente dans sa façon de voir les choses. En particulier à l'époque, il y avait toute une... une problématique sur l'église visible, l'église invisible. Alors l'église visible, c'était évidemment le clergé, les représentants sur terre, l'église invisible étant l'église de Dieu dans le ciel. Alors évidemment, quand on vous disait qu'il faut obéir à l'église invisible et non pas à l'église visible, vous étiez taxé d'hérésie. Enfin, il fallait faire extrêmement attention à ce qu'on répondait quand même quand on était devant les inquisiteurs, parce que si on répondait mal, c'était le bûcher. Bon... Jeanne d'Arc, elle a refusé, bien sûr, de dire qu'elle n'était pas envoyée par Dieu. Donc, elle a été. En réalité, elle n'a même pas été condamnée par ça, parce qu'elle a été condamnée comme relapse. Parce qu'une première fois, donc, elle a confessé ses péchés. Une deuxième fois, elle s'est rétractée, mais elle a dit : mais non, moi, les saints me sont réellement apparus. Et donc, là, on l'a traitée de relapse et condamnée. Je précise, pour ceux qui douteraient que ce soit, donc, qui disent que c'était un homme, elle a eu une vie. Deux visites de sages-femmes qui ont constaté qu'elle était pucelle, et ça, je pense que exact. On peut mettre en doute les documents historiques, mais alors si on remet en doute les documents historiques des milieux d'Inquisition, je veux dire, on remet tout en doute, quoi. On fait comme les gens qui disent antiquités n'ont jamais existé, ce sont des artefacts qui ont été enterrés et qui ont été fabriqués par les gens. Vous voyez, bon, après, non, si on fait la théorie du complot, on peut aller très très loin.
Il y a l'hypothèse de la fantaisie, hein, tout ça est magique.
Oui, voilà, ça, ok. Mais non, moi je crois qu'il faut accepter que dans l'histoire, il y a des événements un peu extraordinaires qui se passent, qui ne s'expliquent pas, ou qui, peut-être si on est assisté, ça s'expliquerait, qui ne se reproduiront jamais parce que l'histoire est contingente. Il y a des événements où, si on repasse, et c'est un peu l'idée de ma nouvelle, si on refait 100 fois l'histoire à cette époque, ben, ça se passera 100 fois de façon différente. Il y a une Jeanne d'Arc, il n'y en aura certainement pas deux. Et qu'il y a des événements comme ça, très improbables, qui se produisent, mais quand on considère les longues périodes historiques, finalement, qu'il y a des événements improbables qui se produisent, ça devient probable. Puisque...
Il y a une chose qui est certaine dans ce qui concerne Jeanne, c'est qu'elle était très, très croyante, très habitée par la foi.
Comme les gens de son époque. Hein.
Oui, mais particulièrement, elle était, je pense, convaincue d'avoir une mission à remplir. C'est ce qui explique son attitude au procès. Hein. Et c'est ce qui explique aussi qu'elle ait voulu forcer Charles VII après à continuer le combat, parce qu'elle n'avait pas fini de remplir sa mission. Elle avait cinq choses à faire à l'origine, et ça devait se terminer par la libération de Charles d'Orléans. Elle voulait libérer Paris, ce qu'elle n'a pas pu faire parce que le roi n'a pas suivi. Et ensuite, après avoir libéré Paris, elle se serait débrouillée pour capturer suffisamment de chefs de guerre anglais pour obtenir en libération Charles d'Orléans, le duc poète.
On n'aurait pas eu toute cette poésie de Charles d'Orléans, donc finalement, ça aurait été.
Pardon,
on n'aurait pas eu toutes les poésies de Charles d'Orléans, donc.
Oui, on les a peut-être eues quand même, parce qu'il savait faire que ça, ce brave Charles. Il était bien gentil, mais bon, c'est pas un guerrier, celui-là. Mais elle s'est beaucoup occupée de Charles d'Orléans, qui, selon cette version, était en fait son demi-frère, si cette version est vraie, bien entendu. Hein. Donc un fils de Louis d'Orléans, qui était le fils de Charles VI. Et qui était, alors ce Louis d'Orléans était aussi le père de Jean Dunois, le bâtard d'Orléans, et peut-être aussi de Jeanne la Pucelle. Il faut savoir une chose, c'est que Jeanne d'Arc, on ne l'a jamais appelée Jeanne d'Arc avant 1456. C'est la première fois qu'on l'a appelée comme ça, c'est le pape Calixte III qui, dans le procès de réhabilitation, l'appelait Jeanne d'Arc. Je peux parler un peu de ce procès de réhabilitation.
Oui, j'aurais dû prévoir un tableau pour inscrire la généalogie. Là, on va s'y perdre un petit peu. Non, voilà. Donc, je ne sais pas le niveau.
Mais est-ce que je peux dire un mot quand même sur ces supposées naissances nobles, etc. À cette époque d'ADN, quand même, où on fait des analyses génétiques, c'est quand même fabuleux parce que c'est rendu compte que tout un tas de gens qui se présentaient comme Louis XVI, le fameux baron de Honnefmann, la duchesse Anastasia, donc la fille, n'est-ce pas, qui aurait réchappé du massacre, etc. On se rend compte que tous ces gens-là étaient des imposteurs, en fait. À l'heure actuelle, on a les preuves scientifiques. Parce que, justement, maintenant, avec l'analyse ADN, on a des restes encore accessibles, ce qui n'est pas le cas de Jeanne d'Arc. Et on se rend compte qu'en fait, sur tous ces cas de gens soi-disant troublants, mais quand même, elle ressemblait à Anastasia, mais quand même, etc., etc., en fait, il n'y en a pas un qui était réellement le fils des défunts, donc Louis XVII, ou la défunte Anastasia. Donc, si vous voulez, je trouve quand même que c'est, ça donne une certaine tendance, quand même, pour moi, enfin, en tout cas.
Paul Béorn, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, là, au milieu de...
J'observe ce débat et je me dis que j'ai très très bien choisi mon personnage de Jeanne, parce que manifestement, il déclenche les passions. Et c'est vrai, de 6 siècles après, on continue à avoir des hypothèses fantastiques. Hein. Il y a effectivement Jeanne des Armoises qui s'est réclamée, qui a été reconnue par ses frères, qui a été payée
bien
par
sûr,
la ville
bien d'Orléans. Bien sûr.
Et de son vivant, et après sa mort, c'était un personnage encore très célèbre. Et aujourd'hui, on voit les récupérations politiques qu'il y a eu autour de Jeanne d'Arc. Ça reste un personnage qui fait énormément parler de lui. Et je pense que son statut de martyr, d'une femme qui est morte très jeune, et son statut de chien dans un jeu de quilles, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui est arrivé dans une guerre où les positions étaient bien tenues, où chacun avait son rôle, fait que c'est un personnage dans lequel beaucoup de gens se retrouvent. Et qui est un formidable personnage de roman, puisque c'est un personnage qui reste populaire.
Bien sûr, oui. Mais moi, j'ai un petit souci quand même, parce que je disais tout à l'heure que le roman de Bernard Simonet commençait par le bûcher, et il nous l'a fait vivre encore. Alors, est-ce que l'historien qui sommeille en vous a une idée de l'identité de la Jeanne morte il y a 580 ans, pratiquement à 3 jours près?
Non, c'est pas... Le problème qui se pose, c'est que on constate une chose, c'est que lorsque... elle est emmenée à la place du Vieux Marché à Rouen pour être brûlée, elle arrive avec le visage masqué, embronché, comme on disait à l'époque. Tout ce qu'on a raconté après, le soldat anglais qui fait une petite croix, ça fait partie du récit hagiographique, c'est-à-dire c'est des choses qui ont été rajoutées après. En réalité, le bûcher n'a pas duré beaucoup de temps, c'était une histoire qui a été expédiée très vite, et le Geoffroy Thiérache, qui était le bourreau, n'a même pas eu le droit de l'approcher. Ce sont les soldats anglais qui l'ont attaché au poteau, et il n'a pas eu le droit de l'approcher. Ce qui est bizarre aussi, c'est que son nom réapparaît plus tard. En 1436, il y a par exemple, elle apparaît sous le nom de Jeanne la Pucelle de France, dans les registres d'entrée de la ville de Cologne, où elle est allée accomplir une mission qui d'ailleurs s'est mal terminée. Elle apparaît également dans des chroniques espagnoles. Le roi Juan Carlos de Castille lui a prêté une cinquantaine de navires pour attaquer La Rochelle qui était bloquée par les Anglais. Et on sait même qu'elle a utilisé à ce moment-là des scies géantes pour scier les chaînes qui empêchaient l'entrée du port. Donc elle apparaît après sa mort officielle. Alors qu'est-ce qui a pu se passer? Bon, après apparaît Jeanne des Armoises. En fait, Jeanne des Armoises, elle s'appelait comme ça simplement parce qu'elle a épousé un nommé Robert des Armoises avec lequel elle a vécu. Cette Jeanne des Armoises est morte le 4 mai 1449. Elle avait participé à la construction de l'église de Puligny, qui est pas très loin de Metz, là, en Moselle. Et son tombeau était orné d'une stèle sur laquelle il était bien noté qu'elle était Jeanne la Pucelle de France. Cette stèle, on en a conservé le texte, mais elle a disparu, curieusement, dans les années 1880, lorsque les émissaires du Vatican sont venus faire des recherches dans la région, parce qu'on envisageait de béatifier, puis de canoniser cette fameuse Jeanne d'Arc. Et évidemment, ce que l'on a découvert sur Jeanne des Armoises, ça faisait pas bien dans le tableau, parce que c'était marqué textuellement dessus qu'elle était Jeanne la Pucelle de France. Qu'est-ce qu'il en est exactement pour Jeanne des Armoises? On peut se poser la question. Elle est réapparue en 1436 au mois de mai dans un lieu qui s'appelle la Grange aux Ormes, qui est du côté de Metz. Enfin, maintenant, d'ailleurs, l'endroit fait partie de la ville de Metz. Elle a été reconnue par quelqu'un qui lui a dit « Mais vous ressemblez à... » Apparemment, elle ne voulait pas trop qu'on la reconnaisse, parce qu'elle était en fait en mission. Elle allait vers Cologne pour remplir cette mission. Et on a fait venir ses frères, Jean et Pierre, qui étaient présents, qui l'ont reconnue. Elle a été reconnue par beaucoup de gens qui avaient connu Jeanne d'Arc, on l'appelait pas comme ça à l'époque, des gens qui l'avaient connue dans la région de Domrémy, de Metz, de Vaucouleurs, de Neuchâteau. Elle a été ensuite reconnue par les habitants d'Orléans, par des gens qui, des tailleurs par exemple, qui avaient pris ses mesures pour lui réaliser des vêtements, par sa propre mère, adoptive ou non, Isabelle de Vouton, la femme de Jacques d'Arc. Elle a été reconnue également par le roi. On l'a accusée d'imposture par deux fois, en fait. Les historiens disent, par exemple, qu'elle a été convoquée à la Pierre de Marbre, c'est-à-dire à Paris. Paris qui était profondément hostile à Charles VII et par voie de conséquence à la Pucelle. Elle était accusée de meurtre et d'imposture. Elle est repartie libre et acquittée. Je pense que si vraiment elle avait été une usurpatrice, elle aurait sans doute été condamnée à mort. Ensuite, le roi finit, d'ailleurs après cette histoire de la pierre de marbre, finit par accepter de la revoir, et lorsqu'il la voit, lui dit textuellement « Soyez la bien revenue mamie au nom de Dieu qui connaît le secret qui est entre nous ». Et là, à ce moment-là, elle se jette à ses genoux, et les historiens ont conclu qu'elle lui demande pardon pour être une usurpatrice. J'ai le texte, il n'y a aucun élément qui me permet de dire qu'elle avoue son imposture. En fait, elle fait certainement référence à une affaire qui a eu lieu après le sacre de Reims et même après l'histoire de la tentative de reconquête de Paris, où elle a eu un comportement qui était contraire aux lois de la chevalerie. Le roi, acceptant de la recevoir, en fait lui pardonne finalement de s'être brouillé avec lui. Et il n'y a pas du tout d'histoire d'imposture. Alors moi, je pose la question suivante, qui est basée simplement sur le bon sens, en ce qui concerne Jeanne des Armoises. À cette époque-là, il y avait extrêmement peu de femmes guerrières. Les femmes se battaient aux côtés de leurs maris lorsque la ville était attaquée. Elles soignaient les blessés. Certaines se battaient même physiquement avec l'ennemi. Mais des femmes chefs de guerre, il y en avait extrêmement peu. En trouver parmi ce petit nombre une qui ressemble suffisamment à Jeanne d'Arc, la vraie, censée être morte en 1431, est capable d'abuser autant de personnes pendant aussi longtemps, parce que ça s'est étalé quand même sur plusieurs années, moi je me pose quand même la question sérieusement. Parce que je me dis c'est quand même très très difficile de trouver, parce qu'il n'y avait pas que l'aspect physique, il y avait la voix, il y avait les anecdotes. Elle avait vécu des choses avec ces gens-là. Ils la connaissaient, ils connaissaient ses manies et tout ça. Ils ont dû avoir des discussions avec elle. Et elle n'a jamais été prise en défaut. Elle n'a jamais été condamnée, elle est morte dans son lit en 1449. Voilà, moi je base ça sur le bon sens tout simplement.
18 ans après le bûcher de Rouen.
Exactement ça.
Pour faire un pot de provocation,
non.
Que Elvis Presley, tout le monde le croit encore vivant, et Lady Diana aussi.
L'histoire regorge d'imposteurs que des millions et des millions de gens ont suivis. Je pense à Pugachev, je pense à tout un tas de Starevich, Alexis, etc., qui juraient que c'était vraiment lui. L'histoire regorge de ce genre de personnages qui ne sont pas tous morts de manière violente, d'ailleurs. Anastasia, elle a été reconnue par sa tante, enfin tout au moins la fausse Anastasia. Louis XVII, pareil, par sa sœur. L'histoire regorge de ces personnages. Dès qu'il y a un personnage comme ça qui connaît une fin un peu tragique, mystérieuse avec une aura, et qu'on vit dans une époque un peu troublée, parce que c'est un peu ça aussi le deuxième aspect, bien sûr que Jeanne d'Arc, elle n'est pas là par hasard. Elle incarne bien évidemment, alors là, c'est. La question peut être débattue sur du cadre strictement historique, mais enfin, pour moi, elle incarne le sentiment national français, c'est très clair. Enfin, je pense que c'est difficile de le nier, qu'il y a une aspiration, ce peuple écartelé et occupé depuis 100 ans par les Anglais, il y a une aspiration très très claire au sentiment national français, et elle incarne ça.
C'est une vision totalement moderne là, que tu décris.
Non, pas du tout. Écoute, le dimanche de Bouvines, la naissance du sentiment national 1214, excuse-moi, c'est quand même un grand historien français.
Quel que soit.
Duby, je ne pense pas qu'on puisse taxer de Duby, n'est-ce pas, d'amateur en histoire. Bien sûr, le sentiment national français, il date bien avant Jeanne d'Arc. On peut pas.
C'était une guerre de succession, la guerre de Cent Ans. Ça n'a jamais été une guerre entre
la France et l'Angleterre. Ça, c'est la vision noble, justement. C'est la vision des nobles, ça.
L'époque était comme ça. Les gens étaient. Tu veux un exemple ? La ville de Bordeaux était anglaise. Lorsque Charles VII a essayé de reconquérir Bordeaux, il s'est heurté aux Bordelais qui voulaient rester anglais. Parce qu'à cette époque-là, c'était la féodalité, l'histoire des nations, ça date de la Révolution, avant. C'était une autre vision.
Quoi qu'il en soit, Jeanne d'Arc était célèbre.
Elle
avait une grande popularité. Et le fait qu'on la croit encore vivant après sa mort, pour moi, ça montre juste qu'elle était...
Ça, par contre, c'est un phénomène qui est tout à fait exact. C'est-à-dire, lorsqu'un héros disparaît, les gens ont tellement envie de le voir vivre qu'effectivement,
il y a eu plusieurs
Jeanne d'Arc. Mais
il faut pas conclure que tout... Il faut que ce suffit pas que le personnage soit un héros.
Parlez pas tous en même temps, quand même. Bon, c'est pas tout à fait une histoire nouvelle non plus de connaître des Jeanne d'Arc après Jeanne d'Arc. Il y a un roman, d'ailleurs, je suis en train de chercher le nom de son auteur, j'ai un peu de mal, qui s'intitule « Les gens d'Épinal », je devrais savoir ça. C'est un roman qui a été publié dans les années 1890. C'est l'histoire d'Épinal entre 1422 et 1444. Et à l'intérieur de ce roman, on parle d'une Jeanne d'Arc qui se promène donc après la date de son décès supposé sur le bûcher de Rouen. Donc vous voyez, c'est quand même au moins, alors je ne suis pas historien à ce point, en tout cas en histoire littéraire, mais ce livre-là, je le connais, je l'ai lu, je suis en train de chercher toujours son auteur, je ne le trouverai pas, tant pis, mais en 1890, on proposait déjà cette version. Bien, c'est vrai que... Jeanne d'Arc est beaucoup récupérée, d'ailleurs, vous voyez l'entrain que ça provoque en nous, entre les historiens, entre les
fantaisistes.
Je voulais poser des petites questions comme ça, un petit peu perverses. Paul Béorn, je me tourne vers vous.
Faut-il y voir un
Paul Béorn est quelqu'un qui a fait Sciences Po. Et il s'intéresse à des choses comme ça, aussi peu sérieuses que des livres de fantasy, parce que quand même, non seulement quand il s'y met, il fait fort, il en sort deux volumes quand même de son roman, La Perle et l'Enfant et Le Hussard Amoureux. Et quand j'ai vu sa bio, effectivement, vient de Sciences Po, un métier tout à fait honorable, et s'intéresse à des choses de cette nature. Comment ça peut se passer, ça ?
Peut-être que j'ai fait Sciences Po par erreur. Hein.
Ah bon ? Oh, je pense
pas. En fait, je suis un grand fantaisiste dans l'âme.
Ah oui ?
Non, mais je pense qu'on peut parfaitement faire Sciences Po et écrire des romans de fantasy.
Oui, c'est pas impossible.
Au contraire, à Sciences Po, on s'intéresse beaucoup à l'histoire et à la politique. Et Jeanne d'Arc, c'est un personnage très intéressant de ces deux points de vue-là.
Oui, mais vous l'avez traité d'une manière très fantaisiste, si j'ose dire.
Ben justement, ça permet de s'affranchir de tout ce qu'on nous a appris. De tous ces cours très sérieux sur l'histoire de France, on peut enfin se lâcher en fantaisie, donner des explications magiques à cette voix qu'elle entend. C'est une perle, et il y a un chevalier emprisonné dans la perle qui lui parle à l'oreille. Ça, c'est une explication parfaitement rationnelle, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
On peut inventer tout ce qu'on veut, et on a une liberté d'imagination en fantaisie qui permet de s'affranchir de tout ce qu'on apprend à Sciences Po, pour faire le lien.
D'accord. D'un autre côté, Rachel Tanner a fait quand même quelques études aussi, licence d'histoire, maîtrise d'archéo, et elle s'amuse à mélanger les genres ou à inventer des mondes du côté des Romains ou d'autres, et à s'intéresser à Jeanne d'Arc d'une manière pas très catholique. Comment se fait-il ça?
Au fur et à mesure que le temps passe, je me rends de plus en plus compte d'une chose, je ne sais pas, peut-être pour vous c'est une évidence, mais pour moi ça ne l'était pas. L'histoire est contingente, c'est-à-dire que les événements qui se passent de cette façon, mais rien n'était écrit, rien n'était tracé. Ça aurait pu se passer de mille autres façons. Et dans la vie des gens, c'est pareil d'ailleurs. Notre vie est beaucoup plus soumise au hasard et à la chance que ce qu'on pourrait l'imaginer. Et ça, c'était quelque chose que j'avais. C'est une idée que je n'avais pas forcément à 20 ans, mais qui s'est peu à peu imposée. Et c'est pas forcément aussi tellement l'histoire qu'on nous apprend dans les facultés, où quand même il y a l'idée sous-jacente, même jamais clairement exprimée, mais quand même sous-jacente, que l'histoire a un sens et que peu ou prou ça s'est déroulé de cette façon et que quand même les événements, même si ça s'était pas déroulé exactement de cette façon-là, quelque part ça devait quand même se dérouler un peu de cette façon-là. Et s'il n'y avait pas eu une Jeanne d'Arc, il y en aurait eu une autre. Enfin, c'est un peu l'idée quand même. Et que je reprendrai dans ce texte, mais plus pour m'amuser qu'autre chose. Or, en fait, au fur et à mesure que je dirais mes lectures et autres, et la vie aidant passe, je me rends compte d'une chose, c'est que je pense que l'histoire peut... On vit dans un monde qu'on pense... d'abord éternel. Or, en fait, je pense que c'est cette société dans laquelle nous vivons ne peut n'être que très temporaire.
C'est en train d'être vu, oui, effectivement.
Comme beaucoup d'autres sociétés. Et que des fois, eh bien, ça se passe comme ça. Il peut y avoir un accident qui fait que cette société sombre ou pas, que ça se passe de cette façon-là ou pas. Et que le micro-événement, on a beaucoup écarté l'histoire moderne, enfin, la manière dont les historiens ont fait l'histoire moderne, ont beaucoup écarté la géographie, la vie des personnages, ont beaucoup écarté l'impact humain des cours événementiels. Et on a fait comme si l'histoire était une science comme la physique, quelque chose de prédictible, reproductible et ayant un sens. En fait, c'est totalement faux. L'histoire est imprévisible, c'est un phénomène chaotique par définition, n'a pas de sens particulier, même pas le sens du progrès, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et que les gens font l'histoire. Et que peut-être il faut, et c'est un peu ce qu'a fait Dubé, hein, en réhabilitant l'événement de Bouvines. Si les Flamands et les Anglais avaient gagné à Bouvines, certainement que tu as eu raison, le sentiment national n'aurait jamais existé peut-être en France. Peut-être.
Ben, si on avait gagné cette fichue bataille de
guerre de Cent Ans.
La guerre de Cent Ans.
Crécy-Poitiers-Azincourt.
Azincourt, en octobre 1415, où il y avait entre 12 et 15 000 Français lourdement armés, plus 4 000 Génois armés d'arbalètes et d'arcs, contre 6 000 Anglais qui étaient fatigués de leur campagne et malades. Et les Anglais ont remporté une victoire très difficilement. Mais si les Français s'étaient mieux accordés, et s'ils n'avaient pas fait les couillons, ils ont appelé les choses par leur don, ils se sont fait massacrer dans des proportions absolument épouvantable, c'était une boucherie sans nom à Azincourt. Ils étaient plus nombreux, ils avaient tous les atouts pour remporter cette bataille. Si cette bataille avait été remportée, le sort de la guerre en aurait été changé.
Or, un peut-être exemple, 95 fois sur 100, on refait la bataille, c'est les Français qui gagnent, en fait.
Ça aurait complètement changé les choses. Et également, par exemple, Henri V signe en 1420 ce traité catastrophique qu'on appelle le traité de Troyes, catastrophique, qui n'était pas si catastrophique qu'on veut bien le dire, c'était simplement une manière de régler cette fichue guerre de succession. On aurait eu un roi anglais, la France et l'Angleterre auraient été réunis sous un même pays. Manque de peau, en 1422, le 31 août, le pauvre Henri V meurt à 34 ans d'une dysenterie. C'était un roi qui, lui, aurait été capable de réunir les deux pays. Il a eu le temps d'épouser Catherine de France, la fille de Charles VI, et il lui a fait un enfant qui a 9 mois, le futur petit Henri VI. Tout est remis en question. Il nomme son frère, avant de mourir, son frère Régent, le duc de Bedford, qui était quand même un homme à poigne. Hein, il était capable tout à fait de reprendre le relais. Mais ça a tout remis en question. Charles VII, lui, était plutôt un personnage pas franchement capable. C'était pas un roi d'une dimension extraordinaire. Il a commencé par perdre plusieurs batailles, Verneuil et tout ça. Et ce qui s'est passé, en fait, il a reçu un secours totalement inattendu de la part du frère du duc de Bedford qui, on peut dire ça, qui foutait le bordel en Angleterre à cause d'une histoire de femme. Et donc, en fait, ils ont failli perdre leur alliance avec Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, et ça a provoqué ça a temporisé la lutte contre Charles VII qui a pu souffler un peu et donc reprendre du poil de la bête. Donc il y a eu tout un tas de circonstances complètement inattendues, complètement chaotiques, qui ont fait que finalement Charles VII a eu énormément de chance. Sinon, il serait devenu un petit noble de province qui aurait disparu et on aurait eu un roi anglais, mais qui parlait français, et vraisemblablement qui aurait plutôt vécu en France qu'en Angleterre. la France était beaucoup plus peuplée et plus attrayante que l'Angleterre à cette époque-là.
Oh, oui, incomparablement. L'Angleterre, c'était quoi, 2-3 millions d'habitants. La France, c'était 15 millions d'habitants déjà à l'époque. Donc, c'était sans commune mesure. Hein,
oui, sans commune mesure. Il y avait, je ne sais plus si c'était aux alentours de 200 000 habitants à Paris, il y en avait 60 000 à Londres. Ça variait beaucoup parce qu'en septembre 1418, il y a eu 80 000 morts à Paris, à la suite d'une épidémie.
Vous voyez, Bernard Simonet, on n'a pas parlé de sa formation comme avec les deux autres, mais il est à l'école de la passion, manifestement. Il a fait un travail absolument remarquable sur la documentation. Il a touché à beaucoup de sujets. Je me demande même si vous n'avez pas travaillé la climatologie dans le roman, parce que des fois, il y a des recherches quand même. C'est un roman épais, dense, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, commence par la fin, enfin la supposée fin de tout le monde, et qui s'accommode d'un tout un appareil critique. Vous pouvez lire ce roman avec à plusieurs niveaux. Je me demande d'ailleurs si c'était pas un roman, si c'est vraiment un roman. J'ai l'impression que vous étiez reporter pour Paris Match.
Ça reste un roman. J'ai voulu en fait retracer l'histoire de cette époque-là, c'est-à-dire qu'on ne reste pas tout le temps sur Jeanne. Je parle de l'évolution des événements depuis essentiellement Azincourt, justement. Pardon ?
De sa formation.
De sa formation, oui, effectivement, puisque je prends le parti du fait qu'elle a été fabriquée, elle a été faite pour jouer un rôle auquel elle a cru totalement, d'ailleurs, ce qui explique son attitude au cours du procès. Et puis ensuite, bon, il y a eu cette brouille avec son roi. Mais c'est un roman, ça reste un roman, ce n'est pas un livre d'histoire, il y a beaucoup de suspense, il y a des coups de théâtre, il y a beaucoup de personnages. Pour la partie histoire, j'ai préféré mettre en fin d'ouvrage des notes qui expliquent pourquoi j'ai pris telle ou telle option. Et je dis bien, dans l'avant-propos, je ne prétends absolument pas raconter la véritable histoire de Jeanne d'Arc, parce qu'on ne peut pas le faire. Par contre, je m'élève contre ceux qui disent l'histoire de Jeanne d'Arc, on la connaît, il n'y a rien à remettre en question. Parce qu'il y a trop d'incohérences. Personne actuellement, à mon avis, ne peut dire voilà exactement ce qui s'est passé. Je ne fais que proposer une autre hypothèse sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Et enfin, en fin d'ouvrage, j'ai mis une bibliographie dans laquelle on trouve à la fois les livres dont je me suis inspiré, dont j'ai accepté les thèses, et aussi celles qui sont en opposition avec ce que je dis, parce que c'est pas à moi de dire au lecteur voilà ce que vous devez penser, c'est à lui, s'il veut compléter sa documentation, d'aller vers les sources auxquelles je me suis abreuvé en fait, et se faire sa propre opinion lui-même. Donc j'ai mis d'ailleurs une note spéciale pour le site de Sainte-Jeanne d'Arc, qui est remarquablement bien fait, qui est plein de documentation, et même si je ne partage pas leur opinion, parce que là c'est le site de Sainte-Jeanne d'Arc, bien entendu, moi n'étant pas croyant non plus, je ne vais pas partager leurs idées, mais je trouve qu'il est remarquablement fait, qu'il y a beaucoup d'informations très sérieuses dessus. Vous voyez, donc, j'essaye d'être le plus objectif possible, donc en disant je ne prétends pas raconter l'histoire, la véritable histoire de Jeanne d'Arc, mais j'explique pourquoi je pense qu'à ça peut-être puisse passer comme ça, voilà.
Merci Bernard Simonet, merci Rachel Tanner, merci Paul Béron. Je pense que le public, vous êtes sans doute déjà des passionnés de Jeanne d'Arc, j'imagine. Sinon, vous n'auriez pas, vous seriez pas resté comme ça assis dans le frais.
Non, mais c'est parce que nous sommes passionnés, en fait. C'est pour ça qu'il reste assis de manière absolument.
J'espère qu'on a répondu, qu'on a réussi à vous inciter à faire au moins trois lectures, mais il y en a plusieurs milliers, sans doute. Le roman de Bernard Simonet, donc Le Lys et les Ombres. La nouvelle de Rachel Tanner dans Rois et Capitaines, mais elle a écrit aussi dans Magicienne et Sorcier, et nous avons la troisième anthologie cette année, vous pourrez trouver évidemment les deux volume du roman de Paul Béorn qui s'intitule La Pucelle de Diable Vert, livre 1, livre 2. Voilà, merci beaucoup de votre patience et de votre gentillesse dans la salle. Vous ne vous avez pas interrompu. Voilà. Merci.